troisième temps de notre série sur l'histoire du feu dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, qui étaient les Vestales à Rome ? Après avoir parlé lundi de la domestication du feu avec Henri Delhomelay, puis hier évoqué les usages et les mésusages du voleur de feu, Prométhée, nous allons parler ce matin des gardiennes du feu à Rome, les Vestales. Qui étaient-elles? Comment étaient-elles choisies? Quelles relations juridiques avaient-elles avec le Pontifex Maximus? À quoi tenait leur place exceptionnelle dans la religion romaine? C'est ce que nous verrons avec Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire, qui a préparé toute cette semaine avec nous, et avec nos trois invités, Claire Lovisi est professeure d'histoire du droit à Paris, Panthéon Sorbonne. Elle a travaillé en particulier sur l'histoire de la peine de mort à Rome. Sylvia Estienne est également avec nous. Elle est maître de conférence à l'École Normale Supérieure, à Paris Sciences Lettres. Et enfin, Nicolas Corr est professeur dans le secondaire, mais il a soutenu une thèse en 2014 sur les rites étranges à Rome. Parmi ceux-ci, il y a sûrement les rites justement liés aux Vestales, sous la direction de Nicole Belaïche. On va en entendre parler tout de suite. En quoi donc consiste le fameux mérite des Vestales à monter une garde ininterrompue, comme on le dit, pour la majesté du palatin romain, à racheter la vie du peuple et le salut des grands, à laisser flotter élégamment leurs tempes de bandelettes, à orner leurs cheveux de rubans, à immoler sous la terre en présence des ombres des victimes lustrales, en laissant tomber leur sang dans la flamme et en murmurant des prières? Voici ce qu'écrivait le poète Prudence à propos de ces fameuses Vestales. Nicolas Corr, vous citez ce texte dans un des articles que vous avez écrit sur cette question des Vestales et de leur relation au reste de la religion romaine. On peut se fier à ces vers de Prudence pour commencer à approcher ce qu'était la condition des Vestales, ou il faut mieux se méfier de ce qu'écrit Prudence?
Prudence est un auteur à prendre avec précaution lorsqu'il s'agit de la description de la religion publique romaine, notamment lorsqu'il évoque les sacrifices sous la terre. Bon, c'est la seule mention qu'on ait de ce sacrifice particulier. Mais lorsqu'il évoque effectivement le fait que les Vestales assurent la survie, en fait, de l'État romain, notamment lorsqu'il parle du Palatin, effectivement, c'est exact. Lorsqu'elles avaient pour mission d'entretenir le feu de Vesta, qui était le symbole à la fois de la continuité de l'État romain, et en même temps, ça devait assurer cette continuité.
Claire Lovisi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez travaillé sur la question de la peine de mort à Rome, on en parlera tout à l'heure, mais ces Vestales, on en trouve la trace très tôt dans les textes romains. Elles apparaissent à quelle époque?
C'est un des plus anciens sacerdoces qui remonte à l'époque royale, donc c'est pratiquement aussi ancien que Rome. On dit que c'est le roi Numa qui aurait instauré ce sacerdoce. Une autre tradition dit que la mère de Romulus, le premier roi de Rome, aura déjà été vestale. Donc c'est un sacerdoce anciens.
On peut dire que c'est conjoint à la condition même de Rome, d'une
Absolument.
Certaine façon.
Absolument, c'est tout à fait lié à l'existence même de Rome, la Vestale.
Alors Sylvia Estienne, on voit donc que c'est une part très ancienne de l'histoire romaine et de l'histoire de la religion romaine, mais on a l'impression, quand on vous lit tous et toutes, et il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur ces Vestales depuis quelques années, qu'il y a tout de même beaucoup de zones d'ombre. On va essayer à la fois de les éclairer, ces zones d'ombre, et puis de se dire que le chercheur ne peut pas tout savoir et que quelquefois il doit rester dans une sorte de réserve vis-à-vis de ce qu'il ne sait pas. On sait beaucoup de choses ou peu de choses sur ces Vestales romaines?
Assez paradoxalement, je pense qu'on sait pas mal de choses parce que ça a intéressé aussi les anciens. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de passages d'antiquaires parce que les Romains eux-mêmes étaient un peu surpris, je pense, du statut tout à fait particulier de ces prêtresses. Et donc, on dispose finalement de pas mal de textes. En revanche, je dirais, d'un point de vue historique, à part quelques grands procès sur lesquels on reviendra, le service quotidien des Vestales, on ne le connaît que par de petites allusions.
Victor Massé-Lépiné.
Oui, ce qui est intéressant avec les Vestales, on va le voir tout au long de l'émission, c'est que leur statut est très ambigu, voire paradoxal, peut-être qu'il faut commencer par la manière dont on devient vestale. Et là, déjà, il y a une sorte d'ambivalence. On devient vestale parce qu'on est candidate ou qu'on nous présente à cette dignité. Et en même temps, il y a une cérémonie qui s'appelle donc la captio, c'est-à-dire qu'on est prise comme vestale par le grand pontife. Est-ce que c'est un acte libre, Claire Lovisi, ou est-ce que c'est une sorte de captivité?
En fait, il y a... Le grand pontife va dresser la liste d'une vingtaine de jeunes filles, entre 6 et 10 ans, parmi lesquelles on va tirer au sort celle qui va devenir vestale. Et le grand pontife procède ensuite à la captio.
Qu'est-ce que la captio ?
C'est un rite qui signe l'entrée en religion de la vestale. Et de cette captio, il résulte un statut très particulier de la vestale, très ambivalent, à la fois fille, femme, homme, avec un certain nombre de privilèges tout à fait extraordinaires. Et de cette captio résulte aussi un pouvoir absolu du grand pontife sur la vestale.
Captio, ça, c'est donc la racine
la prise. C'est la prise. Donc, on dit qu'elle est prise un peu comme une prisonnière de guerre.
Ah oui, donc Sylvia Estienne, c'est déjà une particularité que d'être enlevée donc à sa famille en particulier et de tomber sous la coupe de ce Pontifex Maximus, donc celui qui dirige la religion romaine.
Oui, c'est un rituel particulier qui s'apparente aussi au mariage quelque part, hein. Peut-être autant que à la prise de guerre qui est l'image que donnent certains antiquaires de ce rituel un peu particulier. Et c'est intéressant de voir que dans la formule rituelle, le grand pontife appelle à ce moment-là la jeune fille qu'il appelle à devenir vestale, Amata, aimée. Mm-hmm. Donc
C'est assez ambivalent. On va beaucoup assister, Nicolas Cor, sur cette question d'ambiguïté de ce statut, d'exceptionnalité, comme l'a dit tout à l'heure Claire Lovisi. On est vestale à vie?
Alors nous, le service en fait dure 30 ans, donc 3 périodes de 10 ans. Pendant les 10 premières années, donc elles apprennent justement leur sacerdoce, justement les missions qu'elles auront à remplir. Ensuite, 10 ans, effectivement, elles doivent accomplir leur service, notamment l'entretien du feu, le nettoyage du temple aussi. Et les 10 dernières années, donc, elles apprennent justement aux plus jeunes. Mais au bout des 30 ans, donc, elles peuvent se marier et quitter leur sacerdoce. Mais on a des cas où certaines vestales sont restées jusqu'à leur mort.
Victor Massé-Lépiné.
Et on connaît même peu de cas de vestales qui se sont mariées, je crois, après leur sacerdoce.
Alors, on n'est pas renseigné pour tous les cas, mais apparemment, ça serait assez rare.
Mais je voudrais revenir sur ces 20 filles qui sont présentées, parmi lesquelles on tire au sort donc les 6 vestales, puisqu'il y a en permanence 6 vestales presque tout au long de la République. Est-ce que c'est les familles qui les présentent à une dignité exceptionnelle? Est-ce que être vestale, c'est quelque chose, c'est une place enviée? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est terriblement, c'est vraiment une dimension sacrificielle?
Écoutez, c'est un des plus hauts sacerdoces de l'État, donc j'imagine que c'est tout à fait envié. Ceci dit, on n'a pas forcément foule de candidates, hein. On sait bien que sous l'Empire, on va être obligé de recruter parmi les plébéiennes, alors que sous la République, ce sont plutôt les très hautes familles qui proposent les vestales.
Oui, donc c'est la famille qui propose la vestale, Claire Lovisi. On le sait ou on le sait pas? Là, ça fait partie des points d'interrogation.
On sait que le grand pontife dresse une liste d'une vingtaine de fillettes. Et donc, parmi lesquelles va être tirée au sort la vestale.
Et donc, elles sont 6 avec cette obligation de virginité qui va les accompagner tout au long de cette carrière de vestale, Sylvia Estienne.
Oui, alors ça, c'est ce qui les caractérise. Hein. Elles s'appellent Virgines Vestales, c'est vraiment une définition de leur sacerdoce. Et effectivement, cette virginité, en quelque sorte, est à l'image du feu dont elles vont s'occuper. Toute une série, en fait, des interdits et des exigences qu'on a vis-à-vis des Vestales sont en fait un ensemble symbolique qui définit la déesse dont elles ont à assurer le service.
Alors, est-ce que l'on sait justement ce qu'elles font dans leur quotidien, ou est-ce qu'on a très peu d'idées? Justement, vous disiez tout à l'heure, Sylvia Estienne, qu'on a assez peu de textes qui racontent le quotidien des Vestales. Que font-elles? Quelle est leur fonction dans le temple? Ont-elles des fonctions en dehors de ce temple? Sortent-elles de ce temple? Sont-elles cloîtrées? Elles ne le sont pas. Enfin, toutes ces questions-là sont des questions qui sont intéressantes pour pouvoir imaginer comment se déplace une Vestale dans la Rome, disons, classique, la Rome républicaine, puis ensuite celle de l'Empire.
Alors, on sait finalement quand même un certain nombre de choses. D'une part, il y a donc ce service quotidien qui était assuré par deux des Vestales, qui entretenaient le sanctuaire. Mais il faut savoir que les Vestales participaient à énormément de cérémonies publiques. Et on le sait parfois de façon très allusive, mais il faut imaginer qu'en réalité, leur calendrier était sans doute assez chargé.
Par ailleurs, parce que le calendrier des fêtes religieuses romaines est assez chargé lui-même.
Voilà. Et donc, de temps en temps, on s'aperçoit qu'elles sont présentes pour un certain nombre de rites. Alors, des rites qui ont fait beaucoup rêver, la fête des Argées, mais aussi, par exemple, pour la fête de la Bonadea, donc, qu'on connaît bien parce qu'il y a eu un grand scandale à l'époque de Cicéron. Et on sait que les Vestales étaient présentes.
C'est notamment la fête du mois de décembre, la fête où elles sont liées aux matrones en particulier, c'est ça?
Voilà. Et en fait, il y a eu tout un scandale parce que le dénommé Claudius avait voulu rejoindre peut-être sa maîtresse, qui était la femme de César. Et ce sont les Vestales qui vont jouer un rôle important à ce moment-là.
Oui, donc c'est bien une fonction assez exceptionnelle qu'on est en train de décrire, Claire Levisi, c'est-à-dire elles font partie d'un tout petit nombre de personnes qui sont au sommet de cette religion romaine, c'est cela?
Ah oui, tout à fait, c'est un des sacerdoces les plus importants de Rome.
Et donc ça leur donne ce statut d'être lié à ce Pontifex Maximus qui lui est au sommet de cette religion romaine, et d'avoir des sortes de privilèges dans la société romaine?
Elles ont des privilèges qui n'appartiennent qu'aux plus hautes autorités de la cité romaine. Par exemple, comme les magistrats, elles sont précédées d'un licteur lorsqu'elles se déplacent en ville. Mieux que les magistrats, elles disposent aussi du privilège de voir s'incliner devant elle les faisceaux des autres licteurs. En principe, ça ne se fait que devant l'assemblée du peuple, voire devant un magistrat d'un rang supérieur. Mais d'ordinaire, devant le magistrat normal, non. Elles ont également un droit absolument exceptionnel, qui est le droit de grâce. Quand elles croisent par hasard un condamné à mort, il est gracieux.
Mais le par hasard.
Le par hasard. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si le hasard pouvait être organisé. Il semble que non.
Voilà.
Quand elles croisent par hasard, elles ont aussi un privilège exceptionnel. C'est celui d'être enterrées dans la cité. Personne n'a le droit d'être enterré dans la cité, sauf la Vestale.
Et est-ce que ce sont les seules femmes à avoir un certain nombre de privilèges? Vous avez dit tout à l'heure, Claire Lovisi, qu'elles étaient à la fois femmes et hommes. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, c'est-à-dire qu'elles sont des femmes, évidemment, mais en même temps, elles disposent de droits qui sont ceux des hommes. Par exemple, elles ont la totale capacité juridique, elles ont des esclaves, elles peuvent disposer de leurs biens, elles peuvent faire un testament. Et le tout, évidemment, à une époque où la femme est, en principe, sous la puissance de son père, de son mari, ou en tutelle, autrement. Donc la Vestale a des prérogatives juridiques tout à fait exceptionnelles.
Et le droit de faire un testament, Sylvia Estienne, est-ce que ça veut dire qu'elles avaient des possessions? Est-ce que les Vestales étaient payées? Est-ce qu'elles étaient riches?
Oui, elles avaient des revenus importants, et ça fait partie du prestige du sacerdoce. Et d'ailleurs, vous évoquiez tout à l'heure la prise de la Vestale. On sait que sous l'Empire, l'empereur compenser les candidates malheureuses qui n'avaient pas été prises en leur donnant une dot importante pour bien montrer que c'était un honneur déjà d'avoir été candidate. Par ailleurs, la fortune des Vestales, qui est assez importante, pouvait générer des envies. On sait par exemple que Crassus cultivait une de ses cousines qui était devenue vestale parce qu'il espérait bien en hériter. On connaît son avidité légendaire.
Nicolas Corr, on se pose des questions. À quoi doivent-elles justement ces honneurs suprêmes? On l'a expliqué tout à l'heure en ouvrant avec ce texte de Prudence, c'est-à-dire cette idée qu'elles permettent de maintenir l'unité de la cité, et en particulier de racheter la vie du peuple, dit-il, et le salut des grands. Mais d'autres interprétations sont-elles possibles? Est-ce qu'il y a un lien avec puisqu'on évoquait la question des sacrifices sous la terre, des mythes chthoniens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec la fertilité, la fécondité, etc.? Et peut-on d'ailleurs savoir exactement s'il y a un rapport autre qu'un simple rapport d'unité d'une cité autour de ces cultes?
Alors, c'est assez complexe. Alors effectivement, leur mission principale, comme on l'a dit, c'est vraiment d'entretenir le feu. Si jamais le feu s'éteint, déjà elles sont punies, elles peuvent être fouettées si c'est pas à la suite d'un manque d'attention. Mais ce feu est vraiment le signe aussi de l'union, on va dire, entre les Romains et les dieux. Si jamais les Vestales manquaient de chasteté, justement, c'était le signe que la paix des dieux était rompue aussi. Il y a des prodiges pouvaient apparaître, des pestes pouvaient aussi avoir lieu, des pestilences, si jamais, effectivement, les Vestales remplissaient mal leur mission. Donc, c'est vraiment essentiel que les Vestales entretiennent ce feu et donc accomplissent leur rite. Il y a d'autres rites aussi qui doivent être accomplis, mais c'est vraiment le feu est vraiment au centre de leur fonction.
Justement, ces autres rites, on parlera tout à l'heure donc de la virginité qui doit être absolument préservée, l'entretien du feu, mais parmi les autres rites, il y en a un certain nombre qui sont intéressants, qui sont liés à des pratiques sacrificielles. Les Vestales préparent des aliments, c'est bien ça, Sylvia Estienne? En oui. Particulier la mola salsa. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est cette mola salsa?
Alors, la mola salsa, c'est en fait une farine qui est fabriquée à partir de graines d'amidonier et de saumure préparée de façon très spécifique par les Vestales. Et cette mola salsa sert dans tous les sacrifices publics. On en parsème en fait le dos de la victime et c'est ce qui a donné le verbe immoler, mettre de la mola. Et donc on définissait en fait par ce geste, la victime qu'on allait sacrifier aux dieux. Donc, d'une certaine manière, par ce biais-là, elles sont présentes dans tous les sacrifices publics de Rome.
Claire Levisi, il y a donc des moments aussi de l'année calendaire, pourrait-on dire, qui sont dédiés aux Vestales. Il y a une semaine qui est dédiée en juin, oui, aux Vestales, qui s'appelle les Vestalia.
Vestalia, c'est une semaine de rites où les Vestales accomplissent des nettoyages, des purifications. Et puis, elles participent aussi à la cérémonie des argets. C'est ce moment de l'année où on jette des mannequins d'osier au Tibre, probablement un simulacre de sacrifice.
Et donc, on les voit dans la ville, pourrait-on dire, parce qu'elles sont présentes, vous le disiez tout à l'heure, Sylvia Estienne, dans les processions, dans différents cultes, à différents moments. Et donc, elles sont, disons, attendues à différents moments pour pouvoir participer à la vie publique.
Alors, comme je le disais, un certain nombre de grandes cérémonies religieuses, mais on sait aussi, par exemple, sous l'Empire, qu'elles ont des places d'honneur réservées au théâtre. Et donc, elles assistent aux jeux à côté de la famille impériale. Elles font partie des autorités religieuses qui sont tout à fait visibles. Elles ne sont pas cloîtrées de ce point de vue-là.
Donc, effectivement, elles circulent dans Rome et on les voit se présenter partout.
Et elles ont même un privilège de pouvoir circuler en char, dans une litière spécifique, ce qui était un privilège très restreint.
Claire Levisi, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions des Vestales dans le cadre de votre travail plus large autour de la question de la peine de mort à Rome. Et on vous voit, quand vous les évoquez, très séduite par ce caractère exceptionnel qui reste toujours quand on est une historienne comme vous du droit, vous intéressez à la question du droit, qui cette exceptionnalité vous séduit particulièrement. C'est-à-dire que ça fait partie des points d'interrogation, j'imagine, que quand on s'intéresse à ces questions-là, on se dit mais Pourquoi ce statut? Pourquoi cette exceptionnalité? Pourquoi ces femmes qui sont à la fois femmes et hommes, etc., etc.
C'est vrai que c'est un statut juridique tout à fait particulier. Enfin, déjà, imaginez, ce sont des jeunes filles qui sont des vierges, qui doivent le rester, et qui pourtant sont habillées comme une mariée au jour de ses noces, le jour de la captio, et qui pourtant portent le costume de la matrone romaine. Tout habillé de blanc avec le manteau et la robe blanche. C'est quand même assez particulier, même dans leur costume, c'est ambigu vis-à-vis de leur statut. Donc vierge et femme.
Donc intéressant.
Extrêmement intéressant.
France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
L'amour est un monstre barbare, chante la grande Vestale dans la Vestale de Spontini, dans une interprétation de l'orchestre de la Scala de Milan, dirigé par Riccardo Muti. Alors, nous avons parlé de toutes les prérogatives qui sont celles des Vestales à Rome, mais il y a évidemment la faute, et lorsque la Vestale commet une faute, eh bien, elle est punie, et de façon extrêmement sévère, et cette faute, ça peut être effectivement la perte de sa virginité, qui est nécessaire à l'exercice du culte, Claire Lovisi. Et donc, à partir de ce moment-là, que se passe-t-il?
Ah, eh bien, quand la Vestale a enfreint son vœu de chasteté, elle a commis le crime d'incestus. Et elle va être...
Qu'on pourrait traduire, si on traduit en d'inceste, alors, mais ça ne correspond
pas. C'est pas tout à fait voilà. Un inceste.
Ouais. Non, mais...
hein, c'est une infraction sacrale extrêmement grave. C'est un crime religieux. C'est la violation d'un tabou, la violation d'une abstinence sexuelle qui constitue un tabou. C'est un crime très grave, l'incestus.
Et donc, une fois qu'elle a commis cet incestus, Victor Massé-Lépiné...
Il faut d'abord savoir comment on pense ou comment on sait qu'elle a commis cet incestus. Et donc, comment est-ce que, dans un premier temps, on soupçonne la Vestale, puisqu'il y a des signes qui poussent... en général, à aller chercher une Vestale coupable.
Oui, alors parfois, bon, peut-être des grossesses qui ont trahi certaines Vestales. Parfois, les Vestales ont pu être dénoncées. Mais enfin, la plupart du temps, et c'est quand même assez curieux, c'est cette découverte survient à un moment de grave tension à Rome. En principe, au moment où Rome est dans une situation militaire alarmante, ou alors sur elle s'abattent une multitude de calamités qui terrifient les Romains, et le crime, on le découvre parce qu'on le cherche.
Oui, vous voulez dire que c'est la situation romaine, de la société romaine, peut conduire à la découverte de cela, Sylvien Estienne?
Oui, en effet, quelque part, elles sont le symbole de l'unité de la cité avec ses dieux. Et donc, quand il y a une perturbation, elles sont immédiatement sous les feux de l'actualité.
Victor Massé-Lépinay.
Oui, parce qu'il faut peut-être dire tout de suite que des vestales qui ont enfreint cette règle de la virginité ou qui ont perdu leur virginité, il n'y en a pas tant que ça sur les plusieurs centaines d'années que dure la République romaine. On a un peu de cas et on peut voir une coïncidence entre ces cas, ces procès, et des moments de troubles ou de tensions ou d'épidémies.
Oui, ça ne survient pas à n'importe quel moment. C'est souvent dans des moments d'extrême tension militaire ou en tout cas de terreur religieuse.
Et on le sait pour d'autres siècles et d'autres cultures, en l'occurrence, c'est par le procès que l'on a des témoignages de ce type-là. Et donc il y a un procès de la Vestale.
Ah, il y a un procès qui est... La Vestale est justiciable du grand pontife qui va... organiser un procès dans la Regia, dans la maison du pontife, dans sa maison, et en consultant le collège des pontifes. C'est un véritable procès qui est mené. Il fait suite à une enquête. On interroge, d'ailleurs, et c'est exceptionnel, les esclaves de la Vestale sous la torture, évidemment. On va faire donc une enquête approfondie. Et la Vestale peut d'ailleurs se défendre. Non seulement on juge la Vestale, mais on juge le complice. Parce que pour enfreindre la chasteté, évidemment, il lui a fallu un complice, donc son séducteur. Donc ils sont jugés tous les deux par le grand pontife, avec consultation du collège des pontifes.
Et une fois qu'on a... constaté.
En tout cas, une fois qu'on a condamné la Vestale, qui... parfois pouvait peut-être être innocente, et bien une fois qu'elle est condamnée, elle est conduite à son supplice.
Et donc il y a une cérémonie particulière sur laquelle vous avez travaillé, Nicolas Corse, et justement, une fois cette condamnation prononcée, on emmène la Vestale vers sa mort, d'une certaine façon, une mort qui est tout à fait particulière. Pour ce qui est du complice, lui, il est condamné à être...
il est flagellé à mort.
Bon, déjà, c'est beaucoup, mais pour elle...
Alors, leur punition, effectivement, est particulière, puisqu'elles sont conduites donc jusqu'au Campus Sceleratus, donc c'est à l'intérieur du Pomerium. Et donc, dans ce Campus Sceleratus, en fait, il y a une fosse souterraine où elles vont être conduites vivantes. Et donc, à la suite d'une cérémonie, donc elles seront conduites. Et donc, la fosse sera ensuite entièrement recouverte.
Enterrée vivante.
Voilà. Donc, on ne sait pas exactement, on n'a jamais retrouvé le corps de ces vestales, peut-être un jour. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de faire disparaître de la surface de la Terre, donc la Vestale qui avait fauté.
Et ce que vous racontez dans votre travail, Nicolas Corse, c'est que déjà, on peut presque considérer, une fois qu'elles sont condamnées, qu'elles sont mortes. Enfin, on les présente quasiment comme mortes. Elles sont donc sur une litière, elles traversent le forum romain au milieu de tout le monde, et elles ont les mêmes... hommages, pourrait-on dire, qu'on rend aux morts alors qu'elles sont encore vivantes, en l'occurrence.
Alors effectivement, le langage, le lexique qui est utilisé par les auteurs anciens pour décrire cette cérémonie parle bien effectivement de funérailles. On considère effectivement la Vestale comme une morte alors qu'elle est encore vivante. Et donc c'est ainsi qu'elle est conduite à son tombeau. Mais ce qui est particulier, effectivement, c'est que les Romains ne prennent pas en charge directement l'exécution de la Vestale. Elle est, d'une certaine manière, conduite aux dieux, ou plus exactement, en fait, ils se débarrassent d'elle véritablement. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité de sa mort.
Et on l'enterre vive avec de la nourriture, avec des provisions, du lait, de l'huile, peut-être, je ne sais plus quoi.
Il y a un lit, on a mis dans son caveau un lit avec une couverture et une lampe allumée.
C'est
Plutarque qui raconte ça.
Cette façon de la laisser vivante, c'est-à-dire de ne pas véritablement la tuer.
On la laisse mourir.
Et ça nous dit quelque chose, encore une fois, du rapport de la société à cette figure de la Vestale.
Elle est consacrée à Vesta.
Ça vous paraît tout à fait évident. Ça paraît un peu étrange aujourd'hui. Alors, Nicolas Corse, elle est aussi voilée pendant cette cérémonie d'enterrement. Elle est voilée et elle ne peut pas parler ou elle parle ?
Alors, si elle, dans le rituel, effectivement, on ne doit pas entendre de parole, le pontife lui-même, au moment où la Vestale sort de sa litière, donc prononce des paroles, des prières secrètes, donc ce n'est pas exactement ce qui a été dit, mais ça ne devait pas être audible en tout cas. Et normalement, effectivement, elle doit descendre en silence vers son caveau. Mais on a eu des cas où certaines vestales ont voulu faire entendre leur innocence et qu'elles étaient condamnées à tort.
Et vous dites que ces prières secrètes du pontife Maximus, du pontifex Maximus, fonctionnent à l'inverse de la laudatio que l'on prononce habituellement lors d'un enterrement ou lors de funérailles. C'est-à-dire, généralement, on fait la louange du défunt qui vient de disparaître. Elles, justement, ces prières sont secrètes, donc on n'entend rien d'une certaine façon. Ou elles sont tellement murmurées qu'on ne peut pas discerner ce qui est dit par le prêtre suprême.
Alors, effectivement, on a dit qu'il s'agissait de funérailles, mais c'est des funérailles très particulières, en fait. C'est des funérailles inversées. L'idée, c'est que, justement, on enterre une vivante. Donc, déjà, c'est l'inverse de funérailles.
Bon, déjà, elle était femme et homme à la fois, et maintenant, on enterre une vivante. Effectivement, ça donne un caractère un peu particulier à cet enterrement.
L'idée, c'est vraiment de montrer, justement, la séparation de la vestale de l'ensemble de la communauté romaine. Elle est mise à part pour ne pas qu'elle contamine aussi encore le reste de Rome.
Victor Massel d'Épinal.
Alors, il y a dans l'histoire romaine quelques autres cas de personnes qui ont été enterrées vivantes. Mmh. C'est en particulier le cas à trois reprises, au 3e et au 2e siècle avant notre ère, de couples de Gaulois et de couples de Grecs qui ont été enterrés vivants. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Ça, vous nous le direz, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que Ces cérémonies ou ces peines concernant ces couples de Grecs et de Gaulois ont suscité beaucoup de réactions assez négatives de la part des auteurs, de la part de la société, qui considéraient que c'était quelque chose qui nous ramenait à la barbarie. Pour les Vestales, c'est pas du tout le cas. On enterre les Vestales vivantes, mais c'est quelque chose de très accepté. Comment est-ce que vous expliquez cette différence, Claire Lovisi?
Bien, la Vestale a commis, quand elle l'a commis, un crime extrêmement grave, et il faut pouvoir rétablir la paix des dieux. C'est l'objet de son supplice. Une fois qu'elle a été enterrée vive, les Romains nous disent que tout redevient favorable. Les présages redeviennent favorables et tout s'arrange. Les Romains espèrent d'ailleurs en profiter pour gagner quelques batailles, puisque, en général, ils sont dans des situations militaires assez délicates. Donc, c'est censé rétablir la paix des dieux.
Donc, ça s'apparente à un sacrifice humain pour se rendre favorable aux dieux.
Il me semble que le supplice de la Vestale a un certain nombre de parentés avec les sacrifices humains, et en particulier celui que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir ces deux couples de Gaulois et Gauloises, Grecs et Grecs, qui, par trois fois, ont été enterrés, enfouis sous la terre, au Forum Boarium, dans des circonstances un peu analogues, à savoir de périls militaires imminents. Et Rome a pratiqué ce sacrifice humain. On a d'ailleurs découvert des squelettes qui montrent que des gens ont été enterrés vivants. Un couple de squelettes, si j'ose dire, a été découvert, qui montre que ces gens avaient été enterrés vivants. Alors, les Romains ne pratiquent pas beaucoup le sacrifice humain. Ils sont horrifiés. Le roi Numa passe pour avoir persuadé Jupiter d'abandonner les sacrifices humains. Ils considèrent que c'est un rite barbare. Il n'en reste pas moins que l'enfouissement sous la terre est pratiqué. Alors, c'est assez troublant et de façon un peu similaire à ce supplice de la Vestale.
Sylvia Estienne, est-ce qu'on sait s'il y avait une sociabilité féminine de ces Vestales? Elles étaient donc des femmes, elles étaient dans leur atrium Vestae, donc là où elles pratiquaient le culte à Vesta. Que sait-on de cela? Vous avez écrit avec Valérie Huette un article sur la représentation d'un banquet de Vestales, et qui est un petit bas-relief qu'on a retrouvé justement sur le forum, je crois, qui donc représente ces femmes en train de boire, en train de procéder à des libations. C'est un repas d'après-sacrifice, visiblement. Que sait-on justement sur ces relations? Alors, c'est pas pour faire à tout prix une histoire du genre de ces Vestales, mais y a-t-il quelque chose qu'on puisse savoir de cela, de ces relations justement entre femmes dans le cadre de cette religion romaine?
Alors tout à fait. Donc d'une part, les vestales agissaient souvent avec les matrones pour un certain nombre de rites qui étaient exécutés uniquement par des femmes. Donc,
en particulier pendant les fêtes de Bonadea. Justement.
Bonadea, mais y compris pendant les Vestalia, donc la grande fête de Vesta, c'était le seul moment où le sanctuaire était accessible aux matrones. Donc elles sont associées, je dirais, dans les rites, très souvent aux matrones. Ensuite, le banquet qui est représenté sur ce relief est tout à fait intéressant parce que visiblement, c'est ce qu'on appelle un repas sacerdotal qui réunit en fait les Vestales et d'autres... Il y a plus de personnages, il y en a plus de 6. Donc forcément, il y a des femmes qui ne sont pas vestales parmi celles qui sont représentées.
Il peut y avoir des servantes.
Voilà, malheureusement, on n'a pas le contexte complet, donc on ne peut pas savoir à quel type de fête se rattache ce relief. Mais on a des textes qui montrent bien que dans d'autres circonstances, les vestales pouvaient tout à fait participer à des repas avec, par exemple, la femme du Flamine de Jupiter, qui était également... qui avait un statut religieux particulier, et on sait que les tables étaient séparées, c'est-à-dire que les hommes banquetaient d'un côté et les femmes de l'autre. Donc à la fois elles participent, mais il y a effectivement deux types de tables. Ce qui est intéressant, c'est la volonté de les représenter à cette époque-là. C'est un relief qui est sans doute du début de l'époque julio-claudienne, et on a... beaucoup de représentations de Vestales à l'époque augustéenne et au début de l'Empire, parce que leur statut a été sans doute revalorisé par Auguste, et la volonté de les représenter sur des monuments publics, même si c'est dans des endroits un peu cachés. Car en fait, ce sont des reliefs qui étaient à l'intérieur de l'enclos d'un hôtel, donc tout le monde ne le voyait pas, mais c'est une façon de montrer qu'elles participent pleinement.
Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Claire Levisy, à partir du début de l'Empire, on sent une certaine mollesse dans la volonté de se dédier à ce culte-là. Il y a moins de jeunes filles ou moins de familles qui s'y préparent, et on a l'impression qu'effectivement, il y a une demande plus volontaire de la part du pouvoir, et en particulier de l'empereur, de trouver des filles pour devenir des vestales, non ?
Alors ça tient un passage de la vie d'Auguste, quand justement il revalorise, pas simplement d'ailleurs le sacerdoce des vestales, mais l'ensemble des prêtrises. Et il y a effectivement, il faut remplacer une vestale et on manque de candidates. Mais c'est, je dirais, quasiment l'exception qui confirme la règle.
Et Auguste dit que s'il avait une fille en âge d'être vestale, il la présenterait volontiers.
Il la présenterait volontiers. Mais après, il semble que sous Tibère, où on a une autre affaire, là, on a pas mal de candidates et qu'on n'a plus d'autres passages qui montrent, disons, une réticence quelconque.
On peut se poser la question de ce que devient ce statut de vestale à partir du moment où le pontifex Maximus devient l'empereur soi-même. Est-ce qu'on sait quelque chose de cela sur Sylvia Estienne, c'est-à-dire ce que était décrit tout à l'heure à la fois par Claire Levisy et par Nicolas Corr, à savoir accompagner la vestale, prononcer les paroles secrètes, etc., au moment où elle est enterrée. Sait-on si les empereurs ont procédé à ce culte-là ou s'ils se faisaient représenter d'une façon ou d'une autre ?
Alors, je ne pense pas qu'ils se fassent représenter de ce point de vue-là. Il y a, au quotidien, l'empereur n'était pas tout le temps là et effectivement d'autres pontifes pouvaient le remplacer pour les cérémonies. Et en revanche, pour ces cas exceptionnels de procès...
Oui, parce qu'on a dit qu'il n'y en avait qu'une vingtaine, c'est ça, à peu près, dans toute la durée...
On en connaît quelques-uns, mais rares. Il y en a un sous Domitien qui effectivement fait l'objet de récits circonstanciés, car Domitien n'était pas un empereur totalement innocent, et la vestale, la Cornelia, qui est accusée, proteste vivement.
Victor Massé-Lépine.
Et alors, parmi cette vingtaine de procès concernant les vestales, il y en a aussi qui se terminent, on pourrait dire, bien pour les vestales. Claire Levisy nous a dit que l'idée, c'était de retrouver la Pax Deorum, la paix des dieux. Quelquefois, ce sont les dieux eux-mêmes qui interviennent pour sauver une vestale, Claire Levisy, c'est-à-dire qu'il y a des miracles.
Parfois, la vestale accusée sollicite sa déesse pour qu'elle lui donne une preuve miraculeuse. C'est arrivé deux fois. Enfin, c'est arrivé deux fois. On connaît deux cas qui ont été transmis par les sources. Une vestale qui avait été accusée d'avoir laissé s'éteindre le feu sacré a demandé à sa déesse de le rallumer en jetant un pan de son manteau sur les cendres froides et le feu a jailli. Donc la déesse a manifesté que la vestale était innocente. Et une seconde fois, il s'agit d'une vestale qui, toujours accusée d'inquestus, avait proposé de porter de l'eau puisée au Tibre dans un crible, c'est-à-dire avec des trous, un récipient avec des trous, une passoire si vous préférez, et porter cette eau jusqu'au temple de Vesta, et elle a réussi à porter l'eau dans le crible sans que l'eau s'échappe. Donc on a considéré que la vestale était innocente. Ce sont des preuves miraculeuses. On appelle ça des épreuves ordaliques.
Mmh, on a
adopté ce vocable après sous l'influence de l'Urteil germanique. C'est très rare en droit romain. Hein. Les Romains pratiquent l'épreuve rationnelle, hein. L'épreuve irrationnelle en justice.
on n'aime pas trop ça.
Complètement.
Victor Massé-Lépine.
Mais l'épreuve rationnelle, justement, puisque vous expliquez un peu les procès de ces vestales, il n'y en a pas non plus tant que ça. Quand une vestale est enceinte, c'est une preuve flagrante. Mais il n'y a pas, expliquez-vous, par exemple, les vestales ne prouvent pas leur virginité. Il n'y a pas d'examen gynécologique.
S'il existe un examen par les matrones, on n'en sait rien. En tout cas, ça ne devait pas suffire. Ça ne devait pas suffire, puisque certaines ont été condamnées. Néanmoins, il y a des preuves rationnelles. On interroge des témoins. Il y a des témoins. D'abord, il y a des dénonciateurs.
Il y a
des dénonciateurs. Hein, voilà. Parfois, il y a un dénonciateur. Et puis, on fait appel à des témoins. Et puis, il y a toutes sortes d'indices qui montrent, parfois miraculeux, qui montrent que la vestale n'est peut-être pas tout à fait innocente.
Ça peut être une façon de s'habiller, de se coiffer, provocante.
Oui, certaines vestales ont attiré l'attention sur elles avec leurs remarques ou leurs tenues.
Mais si
certaines avaient un caractère prime sautier,
nous
dit-on.
Prime sautier ou trop légère, d'une certaine façon,
et
ça pouvait
certaines
être...
se plaisaient trop en compagnie des hommes pour qu'on trouvât ça tout à fait innocent.
Oui, parce que Nicolas Corre, tout de même, on loue généralement... Alors ces termes sont lourds de sens aujourd'hui parce que quand on les entend, on pense à autre chose et en particulier à la religion chrétienne, mais on loue leur sanctitas, on loue leur religiositas, on loue leur pietas. Donc elles ont théoriquement, effectivement, avec elles un lourd, non pas contentieux, mais une lourde épreuve à assumer chaque jour dans leur attitude quotidienne d'une certaine façon, parce que ça fait partie de leur fonction et tout cela pendant une vie entière, puisque vous nous disiez tout à l'heure que malgré la limite des 30 ans, la plupart d'entre elles mouraient vestales d'une certaine façon sans s'être jamais mariées.
D'une certaine manière, en fait, les vestales représentaient Vesta, justement. Elles sont censées représenter en tout cas les qualités de Vesta, c'est-à-dire la pureté. Donc elles ont effectivement cette fonction-là. Et elles montrent aussi, on avait indiqué aussi qu'elles avaient un statut ambigu parce que le feu lui-même est ambigu. C'est le feu protecteur, mais en même temps, c'est le feu aussi qui est dangereux, qui peut provoquer des incendies. Donc, elles sont effectivement, d'une certaine manière, l'image vivante de Vesta. Donc, c'est vrai que c'est une mission qui est lourde à supporter.
Sylvia Estienne, aujourd'hui où on s'intéresse dans d'autres périodes, mais aussi dans la période antique, à l'histoire des gestes, à l'histoire du corps, à l'histoire des attitudes. J'imagine que cette fonction de vestale est une fonction particulièrement intéressante. Pourrait-on même imaginer de comment se comporte une vestale physiquement quand elle sort de son temple, quand elle se promène dans la rue, parce qu'elle doit porter sur elle cette sanctitas, cette religiositas et cette pietas qu'on lui accorde.
Tout à fait. Et on évoquait tout à l'heure le cas de Cornelia qui avait été accusée d'inceste sous Domitien. Et le texte qui décrit sa mort dit qu'elle descend donc dans cette chambre souterraine où elle va être enterrée vivante en rabattant soigneusement les pans de sa robe par décence. Donc il y avait une façon de se tenir, de se mouvoir, typique des Vestales, et que cette... Vestale, malheureusement condamnée, empreinte jusqu'à la mort.
Victor Massé-Lépine.
Je voudrais revenir, Claire Lovisi, sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, puisque vous nous avez dit que cet enfouissement des Vestales était, pour vous, un sacrifice humain.
Ça ressemble beaucoup,
alors,
en tout cas.
Ça ne va pas de soi pour tout le monde, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais vous allez même jusqu'à dire que ces vestales sont une sorte de réservoir constitué pour ces sacrifices humains. C'est-à-dire que la société se garde de côté quelques victimes expiatoires potentielles pour les moments où la Pax Deorum serait rompue, c'est-à-dire que leur vocation serait d'une certaine façon de mourir en cas de problème.
Oui, oui, on peut penser, en tout cas c'est ce que je fais d'ailleurs, que le statut de la Vestale, qui la met à la merci du grand pontife, est aussi quelque part destiné à servir en cas de calamité nationale pour qu'on puisse sacrifier cette Vestale pour rétablir la paix des dieux. Ceci dit, l'évolution historique a transformé ce sacrifice humain en procédure pénale, si vous voulez, en crime, ça a quand même bien gardé les apparences d'un sacrifice humain.
Nicolas Corr, pour vous, est-ce que c'est un sacrifice humain ou... Parce que ça a l'air un peu plus ambigu dans vos écrits.
Si on regarde par rapport aux Gaulois et aux Grecs dont on a parlé tout à l'heure, le déroulement est à peu près équivalent. Mais la manière dont les anciens en parlent, pour les Grecs et les Gaulois, effectivement, on a plus le langage, le lexique du sacrifice qui est évoqué, même si c'est sujet aussi à débat. Pour les Vestales, on parle beaucoup plus, effectivement, de funérailles. Le terme même de sacrifice, on le retrouve pas pour les Vestales, donc du moins d'après les sources antiques.
Mais le sacrifice peut se cacher sous un autre rituel, d'une certaine façon. Il peut être édulcoré au point qu'on ne le voit plus, ou on ne veuille plus le voir sous le rituel en question.
Ouais, l'interprétation que j'en fais, enfin, je suis pas le seul, non. C'est l'idée que, de toute façon aussi, la Vestale peut pas être considérée comme une offrande de qualité, on va dire, aux dieux, puisque justement, c'est une sorte de monstre dont il faut se débarrasser. Et la cérémonie par laquelle on se débarrasse de la Vestale aussi, elle disparaît totalement. Il n'y a aucun souvenir, aucune trace ne doit être laissée de la Vestale.
Sylvia Estienne.
Je pense que pour les anciens, l'idée de sacrifice n'est pas exactement la même que la nôtre. Dans le sacrifice, il y a une transformation. Le sacrifice sanglant, vous tuez la victime. On peut faire des sacrifices non sanglants, mais à ce moment-là, on transforme en brûlant. Et c'est cette transformation qui rend sacré. Or là, on est plutôt, me semble-t-il, dans un châtiment, et un châtiment où on exclut de la communauté.
Une sorte de bannissement, d'ostracisme.
Une exclusion assez totale.
Oui, ça, c'est puisque la personne en meurt.
Mais où on laisse ces personnes qui ont commis une faute envers les dieux, aux dieux. Et on a d'autres types de procédures où le sacrilège aussi est rendu aux dieux. C'est aux dieux de trancher.
Claire Levisi.
Oui, ça ressemble aussi à ce qu'on appelle la procuratio des prodiges. Mmh. C'est-à-dire que c'est ces êtres monstrueux qui étaient enfermés dans une caisse et jetés à l'eau.
Mmh. Ah oui.
Ces êtres monstrueux, ce sont par exemple les hermaphrodites.
Par exemple. Le parricide aussi. Le parricide qui a commis un crime donc monstrueux est enfermé dans un sac et jeté au Tibre.
Que sait-on, Nicolas Corr, ou d'autres ici autour de cette table, de ce qui va advenir de ces Vestales à partir du moment où la religion romaine ne sera plus la religion de ses pères depuis la République romaine, mais à partir du moment, par exemple, où Constantin va imposer le culte chrétien dans l'ensemble de l'Empire, les Vestales vont-elles continuer à procéder au culte, à exister? A-t-on des traces tardives de ce culte des Vestales dans Rome, une fois que l'Empire romain est christianisé?
Constantin n'a pas imposé la religion chrétienne, il l'a autorisée. Donc ça veut dire en fait que tout au long du IVe siècle, en tout cas, on sait qu'il y a eu des Vestales. Et les cultes païens sont interdits seulement à la fin du IVe siècle. Alors, d'après ce que j'ai pu lire, donc la dernière Vestale, donc ce serait Ossia, il faudrait vérifier. Donc elle aurait quitté ses fonctions en 394 après Jésus-Christ. Et d'après la tradition, elle serait devenue chrétienne. Mais on n'a pas énormément de sources sur le fonctionnement du Collège des Vestales au cours du IVe siècle.
De toute façon, si on suit les textes, par exemple, de Symmaque, on sait combien, effectivement, maintenir la religion des pères, la religion traditionnelle romaine, dans un contexte où tout le monde, où beaucoup de gens deviennent chrétiens, devient de plus en plus difficile, maintenir ne serait-ce que les temples debout, faire en sorte qu'ils puissent encore continuer à exister. C'est assez complexe, Sylvia Estienne, c'est cette fin. On a parlé de l'origine lointaine et peut-être mythologique de ces vestales, sur laquelle on peut s'interrompre ou s'arrêter dans cette émission.
Je pense que ce qui reste à la fin, c'est que ça reste un sacerdoce prestigieux et donc assumé sans qu'il y ait forcément une implication religieuse, cultuelle importante, mais jusque oui à la fin du quatrième, voire peut-être tout début du cinquième, il y a encore des vestales qui ont le nom, qui peut-être habitent toujours dans l'Atrium Vestae, mais on n'en sait pas grand-chose.
Merci en tous les cas, tous les trois, d'avoir été aussi précis et précises autour de cette histoire des Vestales et d'avoir éclairé, c'est le cas de le dire, notre lanterne sur cette question aussi peu connue, qui était justement cette place des Vestales dans la religion romaine. Si on veut lire quelque chose d'un peu synthétique sur ces questions-là, est-ce que vous nous conseillez un ou deux ouvrages qui permettraient d'en savoir un peu plus ou d'aller voir un peu plus loin? Est-ce que vous avez en tête, à part vos articles qu'on peut trouver sur les très bons sites que sont soit Cairn, soit Percé, soit Revue.org, qu'y a-t-il à lire? Et vous restez un peu tous Claire Levisy.
Il y a toujours l'ouvrage de Marie Beard sur les religions de Rome.
Voilà.
C'est synthétique et pointu en même temps. Ça me paraît peut-être à citer.
Merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, Francesca Fossati, Anthony Thomasson nous a accompagnés à la technique et Renaud Dalma à la réalisation. Demain, nous concluons notre série sur l'histoire du feu en venant vraiment tout près de nous aujourd'hui.
Tout près de nous, et alors que hier avec Prométhée on apportait le feu, aujourd'hui on l'entretenait, demain on l'éteint avec les pompiers.
Les pompiers, une histoire des pompiers et en particulier comment les pompiers racontent-ils entre eux leur propre histoire et les fonctions qu'ils occupent dans la société depuis le 19e siècle. C'est ce que l'on verra dans votre documentaire réalisé avec Renaud Dalmar.